Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Il est 15h et c'est l'heure de l'émission Voyage au fil des mots. Bonjour Dominique.
Bonjour, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, Dominique, tu nous as encore réservé plein de bonnes surprises avec des lectures bien originales. Et pour commencer, c'est la Flandre qui est à l'honneur, c'est ça?
Oui, la Flandre est à l'honneur. Tout à l'heure, ce sera l'Alsace, voilà. Donc, même petite punition peut-être pour les vrais Alsaciens qui, il y a 15 jours, je m'excuse avant la prononciation de certains noms, de certains lieux. Moi étant originaire de la Bourgogne, donc c'est vrai que je vais avoir peut-être un petit peu de difficulté.
Alors on t'en tiendra par rigueur.
C'est gentil. Donc le premier conte s'appelle « La légende des trois vierges de Castres ». Tu verras qu'il s'agit comment se détermine le choix d'un lieu de culte à l'époque. Voilà, c'est une façon originale de dire « ici on va mettre un lieu privilégié ». Il était une fois, au 7e siècle, au temps du bon roi Dagobert et du brave Saint-Éloi, d'autres disent que ce fut bien plus tard, au temps du puissant Charlemagne, trois jeunes princesses anglaises répondant au doux prénom d'Edith, Elfride et Sabina. En ces temps reculés, les princesses anglaises étaient non seulement belles, sinon il n'y aurait pas eu d'histoire, mais aussi emplies de vertus, comme quoi tout change. Or donc, jeunes, belles, riches et vertueuses, elles furent immanquablement courtisées par trois jeunes Anglais. Ceux-ci, déjà, manquaient à ce point d'éducation, je veux parler de la bonne, bien sûr, qu'ils prétendirent sérieusement consommer le morceau le plus tendre du mariage avant d'être passés devant le prêtre, ce à quoi, naturellement, se refusaient constamment nos trois petites Anglaises aux grandes dames de nos trois petits cochons. Ceux-ci, cependant, pressait tant et tant au sens figuré nos trois vierges de succomber et enfin qu'Edith, Elfride et Sabina, lasses de résister vaillamment sur place, décidèrent un jour de partir en voyage, mettant ainsi la mer entre elles et leurs soupirants pour ne se marier dans leur pays qu'à leur retour. À notre époque, l'on franchissait très couramment la mer du Nord pour l'aborder du Nord-Ouest au Pays franc, sur les côtes soit du golfe de l'Isère non loin de Dixmude, soit de celui de Lara non loin de Saint-Omer. Puis, l'on prenait la route d'Arras, de Paris, de Bourgogne, l'on descendait la Saône et à Marseille, l'on s'embarquait pour Rome. Or donc, tel fut le voyage qu'entreprirent nos trois vertueuses. Elles abordèrent près de Rochemouth, où elles passèrent leur première nuit à l'hospice pour les pèlerins que tenaient les moines de l'abbaye locale. Le lendemain, elles prirent la route de Cassel, pensant ensuite rejoindre Castres et Strasil, d'où la route obliquait franchement vers le sud, je veux dire vers Arras. Hélas, peu après Cassel, à l'entrée de Castres, elles furent rejointes par leurs trois malhonnêtes soupirants qui, en bon anglais qu'ils étaient, connaissaient très bien la route principale qui menait à Paris et à ses plaisirs. Et là... Là, il se passa ce qui devait se passer et dont l'horreur est telle que plus de 1000 ans après, je dois encore me forcer pour vous narrer les faits. Donc, nos trois monstres réitérèrent leurs demandes incongrues aux trois vertueuses princesses en les menaçant de mort si elles ne voulaient m'y consentir à leur céder. Vous avez deviné ce dont il était question. Bien entendu, elles refusèrent et, tenant cette fois leur promesse... Eh bien, les trois jeunes Anglais trucidèrent sur le champ leurs trois compatriotes sans se soucier du caractère d'autant plus délictuel de leurs actes qu'ils se produisaient hors de leur pays. Je veux dire, dans notre bonne Flandre, encore peu habituée à de tels débordements. Ceci est cependant une belle histoire et, pour être considérée comme telle par les générations futures qu'elle est censée édifier, il importait qu'elle se termina bien. Or donc, à quelque distance de là... Au village carrefour appelé pour cette raison Strasil, demeurait un chevalier, pris de cécité et fréquentant assidûment l'église. Noble, aveugle et pratiquant, voilà trois caractéristiques qui en ce temps-là vous prédisposaient naturellement à bénéficier d'une vision céleste. Et ce fut ce qui arriva. La Vierge Marie lui apparut et lui enjoignit d'aller sur la route de Castres en se laissant guider par les voies célestes, en l'occurrence celles des petits oiseaux qui avaient reçu du ciel délégation spéciale à cet effet. Tout se passa comme prévu. À l'entrée du village, notre brave chevalier trébucha sur les corps des trois jeunes vierges qui baignaient dans une mare de sang, enduisit ses paupières, dudit sang et recouvra la vue. Alors, il éleva en ces lieux une chapelle où l'on fit ensevelir les corps des trois vertueuses. Aujourd'hui encore, s'élève la chapelle des trois vierges au même emplacement à Castres. Bien sûr, ce ne sont plus les murs d'origine, mais vous y trouverez deux vitraux et quelques tableaux qui vous raconteront, en peinture et en flamand, l'histoire que je viens de vous narrer. Peut-être certains détails diffèrent-ils de la présente version, mais celle-ci est la plus savoureuse. Et après tout, si dans ce bon pays de Flandre, on ne peut pas toujours consommer avant le mariage, au moins n'est-il pas interdit d'en rire à notre façon.
Et ce coup-ci, c'est du côté de l'Alsace qu'on va se promener et c'est la légende du bailli.
Oui, tout à fait. Tu vas voir, c'est une histoire sur la stupidité et les croyances de l'époque, évidemment. Par une belle soirée de printemps, le bailli Lederman était assis dans son jardin, humant l'air embaumé des fleurs et tirant de larges bouffées de sa longue pipe en porcelaine. Il avait bien soupé. Un air de béatitude se reflétait sur sa face rubiconde et contrastait avec la mine piteuse et renfrognée de son secrétaire intime, M. Ossenpittel, qui, debout devant lui, attendait ses ordres au sujet d'un pauvre diable de bohémien qu'on avait arrêté dans la journée en flagrant délit de vol d'une paire de poulets. « Qu'on le pende !» Telle avait été sa réponse préremptoire aussitôt qu'il avait connu le cas. Notre homme, en effet, ne se souciait pas d'être dérangé plus longtemps pour un misérable de cette espèce. Cependant, le secrétaire ne bougeait pas. « Eh bien, drôle !» reprit le bailli, dont la figure commençait à s'assombrir. « Qu'attends-tu ? Que ne vas-tu exécuter ma sentence ? Tu as donc juré de troubler éternellement ma sieste ?»« C'est que, » objecta timidement le secrétaire, « j'ai une demande à vous faire. Le bohémien que vous venez de condamner désire vous parler. » Il affirme que votre intérêt est en jeu et que vous n'aurez pas à regretter de l'avoir entendu. Bon, qu'on l'amène et souviens-toi, M, que si tu m'as dérangé en vain, tes épaules te cuiront. Martin Bâton était effectivement un des arguments dont se servait cet excellent bailli à l'égard de ses subalternes. Un instant après, le bohémien est amené. « Seigneur, dit-il en se prosternant devant son juge, vous m'avez condamné à être pendu. » Mon méfait, cependant, n'était pas grave. Quand on a faim, on ne raisonne pas. J'avoue que la vie que je mène n'a rien d'attrayant. Repoussés de toutes parts, moi et les miens, nous voyageons sans cesse, comme le juif errant, allant de bourgade en bourgade, disant la bonne aventure, en échange d'un morceau de pain ou d'une pièce de monnaie. Malgré toutes ces misères, j'ai le tort de tenir à la vie, et si vous voulez bien m'accorder la liberté, je vous offrirai en échange un talisman d'une grande valeur. À ces mots, Lederman dressa l'oreille. Comme toutes les personnes de son époque, il était superstitieux et avait une foi aveugle dans le surnaturel. Un talisman ? Oh, quelle aubaine ! Et c'est un malheureux qu'il allait faire pendre qui venait satisfaire le plus ardent de ses désirs ? Mais si c'était une ruse ? Et quel est ce talisman ? Dit-il d'un air indifférent en s'adressant au bohémien. C'est une poudre qui... À l'aide d'une seule parole prononcée par celui qui en prend une petite dose, a le don de le transformer en toute espèce d'animal de la création, selon son désir, et lui donne en même temps la faculté de comprendre le langage de toutes les bêtes.
Alors, que ne t'en sers-tu pas toi-même ?
Parce que, Seigneur, je ne sais pas lire. Le mot à prononcer étant indispensable pour que le charme opère, je n'ai jamais pu le déchiffrer sur le petit parchemin où il est inscrit. Le bailli était désarmé. En un instant, le marché fut conclu.
Le pauvre diable était libre d'aller se faire pendre ailleurs en échange de sa poudre et de son parchemin.
« Je vous ferai observer, dit-il en s'en allant, que notre grand chef, de qui je tiens ce talisman, m'a souvent répété qu'il ne fallait pas oublier de prononcer le mot magique quand on désirait faire cesser le charme et qu'on devait surtout se garder de rire pendant la transformation. Sinon, on risquait fort de rester toujours ce qu'on avait désiré n'être qu'un instant. »
Aussitôt après le départ du bohémien, notre magistrat et son secrétaire allèrent s'enfermer dans la bibliothèque du bailliage afin de découvrir le fameux mot. Après bien des tâtonnements et des recherches dans de vieux manuscrits, ils finirent, en comparant les caractères, par lire ce mot latin « mutabor », ce qui signifiait « que je sois transformé ». Séance tenante, le bailli, qui ne possédait plus de joie, voulut voir opérer le charme. Seulement, c'était sur son fidèle serviteur qu'il voulait commencer l'expérience. Lui faire prendre la poudre en le priant de demander à être changé en perroquet, après avoir crié « mutabor », tout cela fut l'affaire d'un instant. Et à sa grande satisfaction, le talisman produisit son effet. Plus de secrétaire, mais un magnifique perroquet vert et rouge qui vint se percher familièrement sur son épaule en babillant et en l'appelant « vieux fripon ». L'Ederman était heureux. Le bohémien ne l'avait pas trompé. Après que le mot magique eut été prononcé à nouveau, le perroquet disparut et Ossenpittel se retrouva à ses côtés. Ils étaient désormais liés l'un à l'autre par ce secret. Leur étonnement, une fois calmé, ils se jurèrent réciproquement de ne révéler à âme qui vive ce qui venait de se passer et s'entendirent pour aller, dès le lendemain, faire un tour à la campagne afin de mettre le talisman à contribution.
« Comme il est tard, dit le bailli, allons-nous coucher. » Demain, nous visiterons ensemble les forêts, les plaines et les rivières, et nous serons ce qui se dit parmi les animaux.
À peine le soleil commençait-il à dorer l'horizon que déjà nos deux compères étaient en route. Ils marchèrent bien longtemps sans rencontrer aucun être vivant. Enfin, ils arrivèrent à un étang sur les bords duquel ils aperçurent une cigogne. La cigogne longeait la rive du haut en bas, happant par-ci, par-là une grenouille et faisant claquer son bec. En même temps, ils virent dans les airs une autre cigogne qui claquetait également et se dirigeait à tire-d'air vers l'endroit où se trouvait la première.
« Je parie 100 pistoles, dit le secrétaire, que ces deux échassiers tiennent ensemble, à distance, une conversation qui doit être des plus intéressantes. Si nous étions cigognes, nous comprendrions et ce serait curieux. »«
Bien dit, riposta le bailli. Mais auparavant, « je te recommande sérieusement de ne pas oublier le mot que nous avons à prononcer quand nous voudrons redevenir hommes. Et pour l'amour de Dieu, garde-toi de rire. »
Pendant qu'ils causaient ainsi, la cigogne qui planait au-dessus de leur tête s'était laissée descendre lentement à terre. En même temps, le bailli sortit de sa poche la boîte à poudre, aspira une bonne prise, en offrit une à son secrétaire et tous deux se mirent à crier à l'unisson « mutabor ».
Soudain, voilà leurs jambes qui s'étirent et s'amincissent, leurs vêtements disparaissent, leurs bras deviennent des ailes, le cou sort des épaules et s'allonge d'une aune, le nez devient un long bec et leur corps se couvre de plumes.
« Vous avez un bien joli bec, dit le secrétaire en se tournant vers son compagnon après une longue pause de stupéfaction.
« Ma parole, je n'ai jamais rien vu de pareil dans ma vie. » « Votre seigneurie a encore meilleure tournure sous la forme d'une cigogne que celle d'un bailli.
Si vous le permettez, allons à présent nous mêler à nos camarades et écoutons leur bavardage pour voir si nous comprenons leur langage cigognais. »
Arrivés près des deux cigognes, ils ne furent pas médiocrement étonnés d'entendre et de comprendre la conversation suivante.
« Bonjour, madame la longue jambe, disait la dernière venue. Comme vous êtes matinale aujourd'hui. » « Hélas, ma chère tête d'acier, répondit l'autre, j'ai passé une bien mauvaise nuit. Tous mes enfants sont souffrants, et histoire de me distraire un peu, je viens leur chercher un déjeuner frugal. Si cela peut vous être agréable, je vous offrirai un quartier de serpent ou une cuisse de grenouille. »«
Mille merci. Aujourd'hui, je n'ai aucun appétit. Je viens à la prairie pour une toute autre raison. Je dois danser demain devant les hôtes de mon père et j'ai l'intention de m'exercer d'étudier mes pas dans cette solitude. »
À ces mots, la jeune cigogne se mit à courir à travers champs, sautillant et en prenant des poses les plus comiques, tantôt sur une jambe, tantôt battant des ailes, tantôt renversant son bec sur son dos.
Lederman et Hossein Pittel, qui suivaient d'un regard attentif tous les exercices de cette jeune ballerine, ne purent conserver leur sérieux. Un éclat de rire strident et ininterrompu sortit de leur bec. Le bailli fut le premier à reprendre son sérieux.
« Voilà une drôle d'histoire, dit-il, qu'on ne se payerait pas avec de l'or. Quel dommage que notre hilarité ait effrayé ces deux sottes bêtes et qui les ait fait s'envoler, sans quoi certainement elles se seraient aussi mises à chanter. Mais qu'as-tu donc, Hossein Pittel ?
Pourquoi prendre subitement cet air soucieux ? » Le secrétaire venait de se souvenir qu'il leur était défendu de rire pendant la transformation. Il communiqua ses appréhensions à son maître.
« Pour ma part de paradis, ce serait une bien mauvaise farce si nous devions rester cigognes. Tâchez donc de vous rappeler le mot stupide qui doit nous rendre notre forme primitive. Je ne puis plus arriver à le sortir de mon bec. Je sais qu'il commence par mu, mu, mais le reste ne me revient pas. Mu, 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 se mirent-ils à crier en chœur en agitant leurs ailes et leurs becs, mais ce fut tout ce qu'ils purent trouver.
Ils étaient décidément voués à l'état d'échassier permanent. Affreuse perspective, ils ne riaient plus. Tristes et pensifs, ils se promenèrent quelque temps à travers la campagne, ne sachant que devenir, puis, prenant leur vol, ils se décidèrent à regagner la ville. Ils espéraient trouver, au milieu de leurs anciens citoyens, un remède à leur malheur. Planant quelque temps au-dessus des maisons pour s'orienter, ils n'eurent pas de peine à reconnaître la maison du bailliage. Enfin, les voilà posés tous deux sur une des cheminées, et du haut de cet observatoire, ils dominaient tous les alentours et plongeaient leur regard morne sur la passe publique où ils voyaient régner une agitation extraordinaire. Toute la population était accourue à la nouvelle de la disparition du bailli et de son secrétaire. Chacun commentait cet événement à sa façon. On avait retrouvé leurs vêtements sur le bord d'un étang. Bien certainement, ils s'y étaient noyés. Pendant un instant, ce fut un brouhaha général. Tous discutaient à la fois. Un certain nombre parlait déjà du nommé d'un nouveau bailli. Enfin bref, tout allait bon train, quand tout à coup nos deux échassiers, qui suivaient attentivement ce va-et-vient, reconnurent dans la foule le bohémien de la veille, celui qui leur avait donné le talisman. Lui aussi venait, tout heureux de sa liberté, se mêler au badaud. Il n'avait pas été peu surpris d'apprendre la mort du maître Lederman et de son secrétaire, et mieux que personne, il aurait pu expliquer ce mystère. « Ils auront ri pendant la transformation, se disait-elle in petto, et probablement ne reparaîtront jamais. » Pendant qu'il allait insoucieusement d'un groupe à l'autre, les deux volatiles prenaient une grave résolution. «
Voilà, dit Hossein Pittel, notre coquin de bohémien qui jouit de notre malheur, si nous nous vengions du tour qu'il nous a joué. »«
Moi, je le veux bien, répondit Lederman, car notre position comme cigogne est désormais chose assurée. Il nous reste un toit pour demeure, une cheminée pour lit et deux yeux pour pleurer. »
« Fais bien attention, je vais compter trois avec mon bec, et au coup de trois, nous nous précipiterons sur ce maudit bohémien et nous l'éborgnerons. Allez, tiens-toi prêt. Un, deux, trois !»
Et voilà nos deux bêtes qui s'élancent d'un trait sur leur mystificateur. Malheureusement, elles avaient compté sans son artifice. Le bohémien, qui était aussi quelque peu sorcier, voyant de loin les deux oiseaux qui venaient sur lui, prononça une parole cabalistique qui fait tomber toute leur fureur. Leur colère fit place à de l'hébétement. Et c'est en claquant du bec qu'ils vinrent se poser tout doucement sur ses épaules. La foule, stupéfaite, cria au miracle. Le bohémien fut entouré et porté en triomphe. On le promena par toute la ville et, à l'unanimité, on le nomma par acclamation bailli, comme s'il avait été désigné pour ce poste par un avertissement venu d'en haut. Il exerça les fonctions de bailli pendant le restant de ses jours. Il se maria et vécut heureux et respecté, car, tout bohémien qu'il était, il ne fut pas plus mauvais bailli que ceux qui l'avaient précédé et qui le suivirent. Pendant bien des années, deux cigognes venaient à chaque printemps nicher tristement sur la maison du bailliage. C'étaient Lederman et Hossein Pittel. Contrairement aux autres couples, ils n'avaient point de petits et vivaient isolés de leurs congénères, comme deux parias. Voilà pourquoi, encore de nos jours, la ville de Dütlentheim porte dans ses armes deux têtes de cigognes entrecroisées sur champ d'azur. Cette histoire, consignée dans les archives de la ville, a été l'objet de recherches de nombreux savants qui, sous les apparences surnaturelles d'un conte, devinaient une page de l'histoire du pays.
Et on va revenir du côté des Flandres, Dominique, avec une histoire avec Louis XVI, c'est bien ça?
C'est cela. C'est l'histoire du premier arbre appelé aussi l'arbre de la liberté. Si mes deux grands-mères n'avaient pas leur pareil quand il s'agissait de raconter des histoires savoureuses de la vie locale d'autrefois, mon grand-père maternel et parrain n'était pas le dernier en ce domaine. Je l'accompagnais souvent quand il travaillait au jardin ou qu'il allait couper de l'herbe pour les lapins, et nous étions fort loquaces. Combien d'histoires m'a-t-il raconté? Jamais les mêmes, ou alors fortement nuancées, émaillées de détails parfaitement vraisemblables, mais qu'il inventait au fur et à mesure. Je sais qu'il inventait, parce qu'avant de sortir ses anecdotes, il riait tout seul de ce qu'il venait de trouver, et de cette étincelle découlait toute une tirade. Je n'ai jamais pu savoir ce qui était automatique chez mon grand-père, son invention bouillonnante quand il racontait, ou son travail de jardinier. En effet, rien ne lui échappait. La mauvaise herbe, le ver blanc dans les poireaux, le pied de tomate à pincer, la chenille du machin sur les carottes, ou de papillon blanc sur les choux. Chez mes grands-mères, en revanche, il n'y avait pas de doute à leur sujet. Le tricot ou la dentelle étaient entre des doigts devenus mécaniques et des aiguilles et des bouts de jeu couraient tout seuls. Bien qu'une chaussette ou un papillon de dentelle demande attention. Mais je m'étends dans mes réflexions personnelles qui ne peuvent pas intéresser les auditeurs certainement. Et j'arrive à mon propos, qui est de raconter une des histoires de mon grand-père qu'il disait avoir recueillie de son propre aïeul, qu'il la tenait lui-même de témoin direct et par là digne de foi. Louis XVI était, quoi qu'on en dise, un bon roi. C'était pour le moins un brave homme qui n'avait pas choisi d'être roi. Il laissait ses ministres et leurs fonctionnaires mener les affaires du royaume de France et se contentait de recevoir les rapports auxquels il ne comprenait pas grand-chose et les ministres en abusaient trop souvent. De temps à autre, le bon roi, lui, appréciait une promenade en solitaire, libéré des soucis de sa charge royale. Alors, il a abandonné les atours et perruques pour se glisser parmi les gens du peuple. Habillé en petit bourgeois ou même en paysan, il se reposait dans la vie simple qu'il aurait aimé partager et personne ne le reconnaissait. C'est ainsi qu'un beau jour de printemps où les affaires d'État l'avaient conduit dans la région de Lille, il dit à ses gens qu'il désirait se promener seul dans la campagne flamande et on lui scella un cheval. La suite du roi n'était pas mécontente de ces escapades royales qui permettaient un peu de liberté avec les conventions en cette absence. Louis XVI se promena du côté de Bailleul parce qu'il aimait les monts de Flandre qu'il comparait aux mamelons des bords du Rhin. Arrivé au lieu que l'on appelle le Ravensberg, le roi paysan remarqua un jardinier qui paraissait bien en peine. Assurément, ce jardinier plantait un arbre. Il y avait là un trou dans la terre, un arbre couché à côté, une bêche plantée, mais le paysan regardait l'ensemble assis sur une butte. Il considérait son ouvrage en marmonnant et paraissait désespéré. Louis arrêta son cheval, mit un pied à terre et s'approcha du planteur qui ne plantait pas. L'autre leva les yeux vers le voyageur qui hasarda. « Eh bien, mon brave, ça ne va pas ? Mon ami, tu as devant toi un homme bien embarrassé. »«
Je vois, » dit Louis.
« Mais pourquoi diable ? Regarde un peu, je veux planter ce sacré pommier et je n'y arrive pas. Ça fait 100 fois que j'essaie. »«
Planter un pommier, ce ne doit pas être difficile.
Attends, je vais essayer. »« Parle toujours, vas-y donc, on verra bien si tu es plus malin que moi. »
Et voilà notre bon roi, plein de bonne volonté, ramassant l'arbre, le dressant dans le trou préparé, puis le rabaissant pour attraper la bêche avec laquelle il essayait de gratter un peu la terre.
« Essayez donc, amis lecteurs, et vous verrez qu'il est difficile de bêcher d'une seule main en veillant de l'autre à ce que l'arbre tienne debout. »
Après quelques minutes de vaines tentatives, Louis en convient.
« C'est vrai, tu as raison. Ce pommier est implantable. Je ne pensais pas que c'était aussi laborieux. »
Et il arrêta son petit ballet royal, dont Lully n'eut pas dédaigné écrire la musique. Puis Louis s'assit près de son compagnon, en essuyant la sueur de son visage du revers de sa manche, comme un bon paysan. Ayant repris son souffle, Louis eut soudain une idée lumineuse, digne d'un roi de France.
« Mais que nous sommes bêtes » dit-il en se relevant. « Voilà comment nous allons faire.
Oh, je tiendrai le pommier vertical et toi, tu reboucheras le trou. » Aussitôt dit, les voilà tous deux à l'ouvrage. En deux temps et trois ou quatre mouvements, l'arbre fut planté, buté et arrosé.
« Oh, bah t'es pas bête, toi !» remarqua le compagnon. « Si les cochons ne mangent pas, t'arriveras à quelque chose. Et comment t'appelles-tu »
« À vrai dire, je n'ai jamais l'occasion de m'appeler, » reprit Louis, qui réfléchissait au moyen de ne pas s'empêtrer. « Mais Louis est mon prénom. »«
Et ton nom de famille ?»«
Capet. » »«
Oh, un bon nom de paysan. Tiens, dans le temps, j'ai connu un Jules Capet qui habitait du côté d'Asbrook. T'étais peut-être parent ?»«
Je ne crois pas, ou peut-être un cousin éloigné. Mais toi, c'est comment ?»«
Moi, c'est Joseph. Tu vois, je vis ici tout seul et je cultive un petit coin de jardin. »
Moi, je regarde ton cheval.
Oh, oh, c'est vraiment un beau cheval. On voit tout de suite que tu t'y connais, hein. Il est bien soigné. Oh, ton maître ne doit pas être un malheureux. Tu travailles dans le coin?
Bah, c'est-à-dire, pas précisément, je travaille du côté de Versailles. Mon maître a beaucoup de chevaux comme celui-ci et, comme il avait affaire dans la région, il m'a demandé de promener la bête.
Allons à la maison. Tu prendras bien une bière.
« Volontiers, j'ai chaud et j'ai soif aussi. »
Et voilà Louis, buvant dans la chaumière de Joseph une petite jatte de bière qui avait été tenue au frais dans le trou d'ours qui tenait lieu de cave. Joseph s'excusa quelques instants et revint les bras chargés.
« Tiens, je te dois quelque chose. Tu prendras bien ces poireaux et ces pois de sucre. Qu'est-ce que je peux faire encore? Car tu m'as rendu un grand service. Dis ce que tu veux, tu l'auras. »
Il faut bien dire que Louis avait hâte de continuer sa route. Et en prenant congé, il dit à Joseph
« Tu es bien aimable, mais garde tes pois de sucre et tes poireaux. J'ai tout ce qu'il faut à la maison. Et pour ne pas rester en compte avec toi, je te demanderai bien quelque chose. Tu m'as dit que c'était un pommier que tu plantais. Eh bien, les premières pommes qui pousseront dessus, tu me les apporteras. On les mangera.
Et on les mangera ensemble. »
Te les apporter ? À Versailles ?
T'es pas fou ? C'est au bout du monde !
C'est pas que je veux être impoli. D'abord, je n'ai pas les moyens de payer le voyage. Tu te rends pas compte ? C'est toi qui vas payer, peut-être ?
Non, c'est impossible, allez, c'est impossible.
Oh, pourtant, ça me plairait bougrement de sortir une seule fois de mon trou.
Le bon roi Louis n'avait pas pensé, Évidemment, ce n'était pas lui qui avait habituellement les soucis de l'intendance. Mais il se ressaisit et dit
« Allez, ne t'occupe pas de ça, tu viendras, c'est moi qui t'invite, tu te promèneras une bonne fois dans ta vie et pour le voyage, je vais arranger ça. Tiens, pour la diligence et l'auberge, tu n'auras qu'à montrer ce papier. »
Et Louis sortit de sa manche un parchemin avec de beaux dessins en couleur et un texte calligraphié que Joseph ne savait pas lire et un gros cachet de cire sur le bas.
« Montre ce papier et tu verras que ça ne te coûtera rien. » Oh, t'as de la chance d'avoir des facilités comme ça. T'as vraiment une bonne place. Mais toi, t'en as pas besoin. Que va dire ton maître?
Mais t'en fais pas, Joseph. J'ai un autre papier pour moi.
Et tout ce que je fais est bien. Je suis pour ça assez bien considéré.
Ah bon? Dit Joseph abasourdi. Mais comment je pourrais te trouver à Versailles? C'est grand et je ne connais rien.
Bah, tu demandes le château et là, tu demandes Monsieur Louis. Tu montreras ton papier et tu te laisseras conduire jusqu'à moi. Insiste si c'est nécessaire, car ils font parfois des manières. T'es sûr qu'on me laissera entrer et que je te trouverai? Et si t'es pas là?
Ah oui, bien sûr. Oui, tu penses à tout. Bah, tu n'as qu'à mettre une lettre au postillon à l'adresse de Monsieur Louis, château de Versailles, ça arrivera et ce sera la preuve de ce que je t'ai avancé.
Mais je sais pas écrire.
Dessine une pomme et marque dessous Joseph.
Tu sais quand même bien signer ton nom,
et je te répondrai quand tu peux venir.
Bon, t'es entendu, et à la revoyure, et encore merci.
Et le bon roi Louis chevaucha sa monture et partit en sifflotant, tout heureux de cette escapade, pleine d'imprévus et méditant sur la leçon, à savoir qu'un homme isolé n'arrive à rien, mais qu'en s'associant, il soulèvera des montagnes. passait. Et voilà que le pommier de Joseph produit 3 pommes, comme c'est son devoir de pommier. Joseph n'avait pas oublié. Avant qu'elle ne soit formée, il prit un papier, dessina une belle pomme, qu'il recommença d'ailleurs plusieurs fois, et coloria même de son mieux. Puis signa d'un paraphe qui prit tout le reste de la feuille, et le postillon mit l'adresse qui lui indiqua en ouvrant des yeux ronds devant le papier que ce paysan lui présentait et qui portait le sceau du roi. Une dizaine de jours après, un cavalier s'arrêta chez Joseph, au Ratzvenbach à Bayeul, et remit sans explication un papier au correspondant extasié. Joseph demanda de le lire et il était marqué « Viens en septembre, je ne m'absenterai pas de tout le mois ». Et c'était signé « Louis », d'une griffe presque aussi grande que celle de Joseph, mais moins lisible. Le roi Louis XVI avait pris la précaution de ne porter aucune marque extérieure ou intérieure de sa dignité, mais le papier était beau et bien plié. À la fin du mois d'août, Joseph cueillit les 3 pommes avant qu'elles ne soient mûres parce que le voyage les aurait gâtées et les rangea bien soigneusement dans une petite caisse avec de la courte paille. Et voilà Joseph parti, après avoir enterré ses quelques sous et tout mis en ordre dans sa maison. Oh, quelle bonne idée il avait eue de planter cet arbre juste à ce moment-là, cet arbre qui lui donnait la liberté, à laquelle il avait tant aspiré. Il était libre et il bénissait Louis. Et voilà comment fut planté le premier arbre de la liberté. Quelques années avant que la mode n'en reprenne l'idée, et cet arbre de la liberté, qui l'avait planté? Eh bien, Louis Capet, Louis XVI. Après avoir pris la diligence, à la poste aux chevaux de Bayeul, Joseph arriva à Nieppe, puis à Armentières, puis à Lens, à Arras, et il se trouva quelques jours après à Versailles. Le parchemin était merveilleux. Sa seule vue mettait tout le monde en effervescence. Les postillons arrangeaient la meilleure place, les aubergistes sortaient leurs meilleurs plats, leurs meilleures chambres, leurs meilleures bières et même du vin. Notre Joseph était comblé d'aise. À chaque instant, il bénissait son ami Louis pour tout le bien qu'il lui avait réservé. Et tout ça sans bourse déliée. À Versailles, on lui demanda de descendre, lui disant qu'il était arrivé à destination. Légèrement inquiet, Joseph tremblait sur ses jambes, mais c'était sûrement l'effet d'un long voyage assis. Notre voyageur s'enquit. Le château, s'il vous plaît. Le château? C'est le château? Nous vous avons amené jusqu'à la porte. Oh, quel soulagement! Il ne devrait pas chercher dans tout ce monde. Merci bien, mon ami, et merci encore. Ne me remerciez pas, c'est vous qui nous avez comblés. Oh, il est bien poli pour un postillon, se dit Joseph. Et il frappa la lourde porte de chêne. Un Judas s'ouvrit et un nez y apparut. Qu'est-ce que c'est? Joseph montrait son papier au nez et bredouilla. Menez-moi à Monsieur Louis, il m'attend. Monsieur Louis? Mais mon brave homme, il est occupé, il ne reçoit pas comme ça, enfin, entrez, je vais voir. Oui, merci, et faites vite, hein. Il m'a dit, tu montreras ce papier et on t'emmènera à moi tout de suite. Dites que j'apporte ce qui est convenu. C'est vrai, asseyez-vous, je vais l'avertir, s'empressa l'huissier. Elle poussa une double porte au fond de l'antichambre, sans doute un peu trop brusquement, car une voix s'exclama derrière. Aïe, 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 mal dégourdi. Tu ne feras donc jamais attention. Tu vois bien que je répare la serrure. Joseph riait de bon cœur. On ne pouvait pas voir à travers la porte. Ben oui, évidemment. Enfin bref, le domestique dit 2 mots à l'oreille du serrurier qui regarda le visiteur avec attention. Puis, ah, mais oui, Joseph, le pommier. Oh, excuse-moi, mais j'avais un peu oublié ton visage. Allez, ne fais pas attention, j'ai les mains pleines de graisse. Salut, mon vieux Louis. Oh, tu fais aussi le serrurier? Tu fais donc tout ici? Oh, toi, tu peux dire que t'as une bonne place, hein? Oui, je fais tout ici, enfin, tu vois. Mais ne reste pas là, suis-moi. Je vais avertir la cuisine qu'on te prépare un bon repas, car tu dois avoir faim après un si long voyage. Joseph n'avait pas très faim. Avec les bonnes auberges qu'il avait gavées pendant une bonne semaine, enfin, de plus, il ne paya pas, il n'hésitait pas à en redemander. Mais par politesse, il accepta. Bah, tiens, ajouta Louis, on mangera ensemble. T'as pour emporter des pommes? Des pommes de ton pommier? De notre pommier, rectifia Joseph. Et 3 belles, tu verras. Mieux encore, puisque tu apportes 3 pommes, nous mangerons à 3. Je vais demander à ma femme de partager notre repas. Mais ton travail, tu n'as peut-être pas fini. Regarde, ta serrure, elle est encore par terre. Bon, allez, t'en fais pas, mon bon Joseph. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain ou un autre jour. Tu sais, on ne me presse pas ici. Oh, je me répète peut-être, Louis, mais t'as vraiment une bonne place. Le repas dépassa tout ce que Joseph avait imaginé. Dans ce que Louis appelait le petit salon, pourtant immense comparé à l'unique pièce de la chaumière de Ravensburg, Joseph s'assit sur une chaise sculptée comme les 11 autres.
« Elles doivent être vieilles, ces chaises, » hasarda Joseph. « Leurs pattes sont toutes arquées à force de s'asseoir dessus. »
« Oui, » dit négligemment Louis, « elles sont vieilles, elles me viennent de mon grand-père et j'aime bien ces pattes arquées, ça leur donne un style. »
Louis s'assit face à Joseph et sa femme au bout de la table. Deux serviteurs tout habillés avec des dentelles et un gilet blanc à boutons de nacre et des chausses avec des nœuds de satin apportèrent tour à tour les plats les plus succulents, meilleurs encore qu'à l'auberge.
« Tu exagères, Louis. Oh, que va dire ton maître? Il n'est sans doute pas là. Tu ne crains pas de jouer avec ta place ?»«
Si, 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 il est là, mais il est d'accord. Allez,
et ne t'en fais pas pour ma place. Je fais ce que je peux et on me considère. T'occupe pas, va et mange. »
Et l'on parle de jardinage, de chevaux, de la chasse, et Joseph expliqua comment il faisait ses collets, et l'on évoqua bien sûr l'anecdote du pommier. Louis raconta avec tous les détails l'histoire qui amenait Joseph à leur table, et sa femme s'en amusa beaucoup. C'était une très belle femme, très bien habillée, mais avec un petit air de bergère, et Joseph se dit qu'elle devait être femme de chambre de la demoiselle du château, mais sa discrétion l'empêcha de se le faire préciser. Puis vient l'heure du dessert. Sur un plat d'argent, un serviteur apporta les 3 pommes de Joseph, merveilleuses, luisantes et rutilantes. Dans une petite assiette, en argent aussi, Joseph reçut la sienne, Louis une autre et sa femme la 3e. Joseph ne disait rien, mais il pensait au surcroît de vaisselle pour rien que Louis imposerait à sa femme dans le seul souci de bien recevoir son hôte. Chaque pomme était accompagnée d'une fourchette et d'un couteau en argent également. La femme de Louis s'extasiait sur des fruits aussi beaux, aussi charnus, aussi rouges, et complimentait Joseph, qui ne voyait, lui, que des pommes comme les autres, pommes peut-être un peu plus belles parce que bien présentées. Mais ces gens étaient si aimables qu'ils se contentaient de ses compliments. Avec un petit linge de soie, Louis et sa femme essuyèrent délicatement leurs fruits. Ils entreprirent de le découper en tranches fines qu'ils portaient à la bouche avec leur fourchette. Joseph n'avait jamais vu ça, et pour les mettre à l'aise d'emblée, il sortit de sa poche son gros couteau à manche de bois, qui coupait mieux, et se mit à éplucher sa pomme en déroulant un interminable ruban. Louis et sa femme étaient interdits. Ils regardaient la pomme, l'épluchure, l'éplucheur, se regardaient l'un et l'autre, et ne pensaient même plus à manger.
« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Joseph, qui se rendait bien compte que quelque chose n'allait pas. « Elles ne sont pas bonnes ?»
Louis et sa femme reprirent leur dégustation, mais riaient maintenant. Et Louis ne put s'empêcher de rire.
« Tu sais, Joseph, nous sommes peu au courant des manières de la campagne, mais je vais te dire ce que me dit mon médecin. Qu'il ne faut jamais éplucher une pomme avant de la manger, si tu veux en conserver de bonnes dents et être en bonne santé. C'est un homme de science, et il dit que le meilleur se cache dans la peau.
Ouais, bah c'est peut-être possible. Elle, on m'a déjà dit, mais tu vois, Louis, si j'épluche ma pomme... c'est que je ne sais pas la reconnaître des autres.
Bah, quelle importance, Joseph. Elles sont toutes 3 pareilles.
Oui, je ne dis pas. Mais il faut quand même te dire, en les emballant, j'en ai laissé tomber une dans le purin, alors tu comprends.
D'après certaines chroniques de l'époque, alimentées par les serviteurs un peu bavards, Louis aurait avalé de travers le morceau de pomme qu'il avait dans la bouche. Il fallut appeler le médecin, qui prodigua ses efforts et réussit in extremis à sauver le bon roi de France qui était près de trépasser.
Cela montre bien qu'un petit incident, j'allais dire un petit détail, mais il paraît que ce n'est pas bien apprécié par les partisans du roi. Je disais qu'un petit incident peut faire chavirer complètement la destinée de la France. Si Louis XVI était mort ce jour-là, la petite anecdote que je vous ai racontée serait devenue événement national et tous les livres d'histoire auraient dû en parler. Il a fallu que ce soit autrement, que le premier arbre de la liberté, que le roi lui-même avait planté, soit la cause indirecte de son trépas. N'aurait-ce pas été plus digne pour la France que le vulgaire coupé-cabèche de la Révolution? Au fond, en y réfléchissant, la cause est à peu près la même, si les prétextes sont différents. Mais ne réfléchissons pas trop, de toute façon, Louis serait mort à l'heure actuelle. Et il y a de fortes chances pour que le pommier de Joseph de Ravensbrück soit mort à son tour, et Joseph avec, puisque c'est le destin de chacun.
mais maintenant on va repartir en Égypte avec des petites histoires de la légende de Ptolémée.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je rappelle donc aux auditeurs qu'au fil des émissions, on va essayer de découvrir comment Ptolémée Césarion a été éduqué à la vie d'homme sage par le scribe de sa mère, Cléopâtre, reine d'Égypte. Et ceci à différents récits, contes et légendes, donc pour retracer tous ces événements. Cette fois, on va parler donc des animaux dans l'éducation par le biais d'histoires d'animaux. La première, qui s'appelle Le lion qui voulait rencontrer l'homme, on pourrait l'intituler aussi Ne te prends pas pour le plus fort et sache écouter même les plus petits. Et pourquoi je parle des animaux? Parce que justement, dans l'entrée en matière de ces deux histoires qui vont suivre, ça se passe au quatrième jour de formation de Ptolémée. Et donc là, ils ont dit « Vois mon fils et scribe-toi aussi là-bas, à la limite du désert, ces lions. Quelle allure majestueuse !» dit la reine Cléopâtre. La barque d'or de Ré, dieu soleil, émergeait des ténèbres de la nuit et ses flèches étincelantes annonçaient la naissance d'un jour nouveau. « Tu as raison, grande reine, ils se comportent vraiment comme de nobles personnages, comme vous les pharaons, car ce sont des rois. » « Ils règnent sur tous les animaux du désert et des contrées rocheuses, » répondit le scribe. « Mais ils ne peuvent, comme nous, atteindre la sagesse, » répliqua le petit prince Césarion. « Noble prince, je suis persuadé que tu serais étonné de voir comme le roi des animaux peut se conduire de façon sage et raisonnable. Écoute ce que les antiques papyrus du livre des pharaons rapportent du royaume des bêtes et des oiseaux, et tu verras qu'il y a grande ressemblance entre le monde des animaux et le monde des humains. » Et peut-être un jour auras-tu besoin d'imiter leur sagesse. Jadis, dans le désert, vivait un lion puissant qui était plus fort que toutes les bêtes des monts et des steppes. Il poursuivait les autres animaux et venait facilement à bout. Toute la gent animale des steppes et des monts le redoutait et tremblait de terreur quand se faisait entendre au loin son terrible rugissement. Un jour qu'il allait s'abeuvrer, il rencontra la panthère dont le poil était arraché et la peau déchirée. « Pourquoi ton poil est-il arraché et ta peau déchirée ?» demanda le lion très étonné. « Qui t'a traité ainsi ?»« L'homme, » répondit navré la panthère. « Qui est-ce, l'homme ?» demanda le lion, surpris au plus haut point. « L'homme est la créature la plus rusée qui soit. Évite de croiser son chemin et de tomber entre ses mains. Tiens-toi plutôt à distance. » « On ne me fera pas croire que quelqu'un puisse me vaincre, » se dit le lion. « Je vais chercher l'homme et nous mesurerons nos forces. On verra bien qui sera victorieux. » Et ainsi, le lion se mit à la recherche de l'homme. Il rencontra le cheval et l'âne. Ils avaient un mors dans la bouche et une bride au cou. Ils traînaient une charrette et galopaient si vite qu'ils soulevaient un nuage de poussière. En quelques bonds puissants, le lion les dépassa, leur barra la route et leur dit « Qui vous a attaché à cet étrange objet? Et pourquoi cette fuite désespérée ?»« L'homme, mon maître, nous a réduits en esclavage, » répondirent le cheval et l'âne. « Nous nous sommes sauvés en portant la charrette et nous galopons de toutes nos forces pour qu'il ne nous rattrape pas. » « L'homme est donc plus fort que vous deux ?» reprit le lion stupéfait cette fois. « Personne n'est plus rusé que l'homme, notre maître. Garde-toi bien de tomber entre ses mains. Il te rendrait esclave, comme il l'a fait de nous. » Le lion hocha la tête et s'en fut incrédule. Il lui fallait trouver l'homme pour se prouver à lui-même, ainsi qu'aux autres, qu'il était bien le plus fort. Un peu plus tard, il rencontra le taureau et la vache. Ils avaient des cornes rognées, les naseaux percés et un joug sur la tête. Le lion leur demanda qui les avait ainsi maltraités et humiliés. Ils répondirent que c'était l'homme, la plus rusée des créatures. Le lion vit ensuite venir l'ours, qui n'avait plus ni griffes ni crocs. C'était un triste spectacle que ce puissant animal privé de ses armes. Le lion lui demanda « Est-ce donc encore l'homme qui a eu raison de toi ?»« Tu as dit vrai, c'est l'homme qui m'a ainsi amputé. Je me suis vanté de ma force et je lui ai ordonné de me procurer de la nourriture, » répondit l'homme. Un jour que je n'étais pas sur mes gardes, il m'a offert une nourriture empoisonnée et en a profité pour m'arracher les griffes et me casser les dents. Puis il m'a jeté du sable dans les yeux et s'est enfui, emportant mes griffes et mes dents. Me voilà maintenant impuissant comme un ourson, un nouveau-né. Humilié ainsi l'ours puissant, c'était la honte pour toute la gent animale. Le lion en gronda de fureur et en baudissant, il s'en fut à la recherche de l'homme. « Qu'il vienne seulement à m'apporter de mes griffes et il lui en cuira !» grommait-il en lui-même. Sur ce, il vit un autre lion, son congénère, qui avait une patte prise dans le tronc d'un arbre qui agitait désespérément et inutilement les trois autres. Le lion lui demanda « Mais que s'est-il passé? Comment t'est arrivée cette mésaventure ?»« L'homme, » répondit le deuxième lion, « si tu flaires son odeur, fuis aussi loin que tu le peux. Si tu le rencontres, ne lui fais pas confiance et ne crois rien de tout ce qu'il pourra te dire. » Il m'a dit qu'il était le maître du temps et qu'il connaissait le secret de la jeunesse et de la vieillesse.
Nous sommes venus ensemble jusqu'à cet arbre du désert. Il y a planté sa hache et m'a dit de mettre une patte dans l'entaille. Et dès que j'ai eu introduit ma patte, il a ôté vivement sa hache et l'entaille s'est refermée. Quand il a vu que l'arbre tenait solidement ma patte, il m'a jeté du sable dans les yeux et il est parti. Le lion rugit si épouvantablement que toutes les créatures vivantes des alentours sentirent leur sang se glacer dans les veines. Il jura à son frère infortuné, « Si l'homme tombe sous ma griffe, je lui ferai payer toutes les hontes et toutes les souffrances qu'il a infligées aux animaux de ces lieux. Terrible sera ma vengeance, je te le promets. »
Comme le lion parcourait déserts et montagnes, cherchant toujours l'homme, il posa sa patte sur une petite souris, mais une souris minuscule, pas plus grosse qu'un tout petit œuf de caille du désert. Déjà, il levait la patte et allait l'écraser quand la souris le supplia. « Oh, ne me tue pas ! Ô lion, notre seigneur, me manger n'apaiserait pas ta faim. Vois ma taille. Tu n'en sortirais même pas le goût sur ta langue. Accorde-moi la vie et si tu te trouves un jour en danger, comme je le suis aujourd'hui, je te le revaudrai. Si le sort t'est contraire, je te secourrai dans ton malheur et je te rendrai la vie et la liberté.
Comment toi, minuscule créature, pourrais-tu me venir en aide à moi, le plus puissant de tous ces animaux ? Quand il n'y a qu'une créature au monde qui puisse s'égaler à moi, me combattre et encore moins me vaincre, personne ne pourrait croire en tes paroles.
Je répète que je t'aiderai dans ton malheur quand les mauvais jours viendront pour toi, siffla la souris d'un ton prophétique.
Le lion éclata de rire, bienveillant, et dit « Oh, tu as bien de l'audace de te vanter ainsi. Mais en y réfléchissant, tu as raison. Si je te mangeais, je n'en aurais ni plus ni moins faim. Je t'accorde la liberté. Allez, va, ma petite protectrice. »
Le lion s'amusait de bon cœur et laissa la vie à la petite souris. Son rire parvint aux oreilles de l'homme qui était en train de poser un piège. Il creusa un profond fossé au pied d'un arbre, puis grimpa vivement dans le feuillage pour que le lion ne le voie pas. Le lion flaira son odeur, rugit, se précipita contre l'arbre et tomba dans le fossé. L'homme sauta de l'arbre, jeta sur le lion un filet qu'il attacha de solides courroies. Qu'importaient les rugissements du lion ? L'homme ne fit qu'en rire et se moquer. Il jeta la poussière dans les yeux et lui dit « Tu voulais me capturer ? Eh ben te voilà pris toi-même. J'ai eu raison de toi, roi du désert. Demain je reviendrai pour te tuer. Allez, bonne soirée, pense à moi et réjouis-toi pour demain. » La fierté du puissant lion, seigneur du désert, était en lambeaux. L'homme avait anéanti son orgueil. Le lion était impuissant, il ne pouvait faire aucun mouvement. Il ne voulait pousser aucun rugissement qui l'aurait alerté les autres animaux en révélant sa honte. Il resta donc silencieux, n'ouvrant même pas les yeux dans la nuit, attendant tristement le lendemain résigné à son triste sort. Vers le matin, persuadé que sa mort prochaine, le lion vit près de lui une petite souris. Sans doute le sort voulait-il, par cette plaisanterie, le punir de son orgueil et de son égoïsme. « Me reconnais-tu ? » il a dit petite souris. « Tu m'as épargné hier et je viens tenir ma promesse et t'aider dans ton malheur. Tu vois, tu n'as pas voulu me croire qu'une souris pourrait te rendre un service. Un jour entier ne s'est pas écoulé et tu as déjà besoin de moi, ô roi du désert. Il n'y a que moi qui puisse te sauver des mains de l'homme, mais c'est avec joie que je t'aiderai, car il est bon de rendre le bien que l'on vous a fait. Et il y a encore une chose qu'il ne faudra pas oublier, lion, mon seigneur, c'est que les forts et les puissants comme toi ne devraient jamais faire tort aux petits et aux faibles. » Nul ne peut savoir de qui, dans le malheur, il pourrait avoir besoin. Puis, la souris se mit à grignoter les courroies qui liaient le lion. Elle rongea les mailles du filet qui l'enveloppait, puis se cacha dans son épaisse crinière. Le lion se releva, dégourdit son corps, détendit ses muscles et lentement s'enfuit vers le désert.
Enfin, je n'avais qu'une petite dernière.
Ah, allez, l'amitié entre deux chacals. Il y a bien longtemps de cela, vivaient dans le désert deux chacals qui s'aimaient d'une grande amitié sincère. Toujours ils s'entraidaient, jamais l'un n'abandonnait l'autre dans l'adversité. Ils étaient unis dans la joie comme dans le chagrin. Ils ne faisaient amitié avec aucun autre animal et passaient tout leur temps ensemble. Ensemble, ils recherchaient leur nourriture, ensemble, ils mangeaient et buvaient et,
quand les tourmentait la chaleur du soleil de midi, ensemble, ils se rafraîchissaient à l'ombre du même arbre au milieu du désert. Un jour qu'ils cherchaient leur nourriture, l'ami près de son ami, sur un terrain calciné désertique, surgit brusquement devant eux un lion affamé qui chassait en quête d'une proie. Au lieu de fuir, pris d'épouvante devant cet implacable ennemi, les deux amis, comme sûrs de leur force, s'immobilisèrent. Voyant cela, le lion stupéfait leur demanda « Pourquoi ne vous êtes-vous pas enfui à mon approche? Ne voyez-vous pas que je suis en chasse ?»«
Cela est vrai, ô Seigneur. Nous avons bien vu que tu étais en chasse et que tu allais te jeter sur nous. Mais nous avons pris la décision de ne point fuir, » répondirent les deux amis. « Nous avons pensé que de toute façon, aussi vite que nous galopions, tu nous rattraperais et qu'il était préférable pour nous que tu ne sois point épuisé et faible. Ainsi, quand tu nous déchireras pour nous dévorer, nous souffrirons moins et si tu nous avais poursuivis et que tu étais fatigué, nous aurions souffert. Donc nous préférons une mort rapide à une mort lente. Il est triste de mourir dans de grandes souffrances. »
Le lion, qui avait écouté avec grande attention les paroles du chacal, lui dit
« Un noble roi n'est pas en colère d'entendre des paroles vraies, et il sait reconnaître le courage et l'audace de ses sujets. Il doit être grand et généreux envers des êtres sans défense. » Sur ce, le roi du désert s'éloigna, et dès ce jour, il leur accorda la paix.
Dominique, alors on se retrouvera dans 15 jours, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait, dans 15 jours.
Même jour, même heure.
Punition.
Même punition.
Même punition.
Et au programme?
Alors, je ne sais pas encore, parce que j'avais préparé quelques contes et légendes toujours des Flandres, parce que je trouvais qu'elles étaient intéressantes. Mais bon, je vais voir suivant mon humeur. J'ai bouquiné pendant 15 jours, je vais essayer de vous trouver des choses. Voilà, peut-être des textes de chansons, il y a longtemps que je n'en ai pas lu.
Oui, c'est
voilà,
vrai.
Voilà, des textes avec des poèmes, je vais essayer de
retrouver. C'est bien agréable aussi.
Ouais. Voilà.
Bonne idée. Donc, rendez-vous dans 15 jours. Merci beaucoup.
Mais je t'en prie.
Et
merci aux auditeurs.
À très bientôt alors.
À bientôt tout le monde.